Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission de débat public Démocratie en progrès. Une émission produite et réalisée par Radio de la paix en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Pour ce numéro, nos panélistes vont se prononcer sur le thème « Quel défi relever pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale ». Nos invités sont M. Edouard Diousssou, directeur des études et de l'éducation civique au sein de la commission électorale indépendante. M. Arsène Conan, spécialiste des processus électoraux, cofondateur de Côte d'Ivoire Citoyenneté Active. Madame Fanta Doumbia, présidente de l'ONG, le comité de coordination pour la participation politique des femmes. Monsieur Adama Traoré, membre de la plateforme du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Monsieur Bli Marus, il est le secrétaire général de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Merci, chers invités. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme je le disais, nous allons nous plancher donc sur le processus électoral qui a lieu en ce moment même dans notre pays. Il s'agit bien entendu de la révision de la liste électorale. Et pour nous parler de cette révision, nous sommes en compagnie de Monsieur Edouard Diousssou. Il est donc directeur des études et de l'éducation civique. Alors, Monsieur Edouard Diousssou, pourquoi la commission électorale indépendante a senti le besoin de lancer cette opération de révision de la liste électorale? Elle consiste à quoi, cette révision, et qui sont les personnes concernées?
Je vous remercie de l'occasion que vous offrez à la commission électorale de saisir encore une opportunité d'expliquer ce qu'elle fait, et puis plus particulièrement d'expliquer ce que c'est que la révision de la liste électorale. En mots simples, la révision de la liste électorale, ça consiste à tenir compte de toutes les mutations qui interviennent dans le corps électoral. Et le corps électoral est constitué de tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, donc qu'on classe dans la catégorie 1, mais aussi prendre en compte tous ceux qui ont le droit, en tant qu'Ivoiriens, d'y figurer parce que jouissant de leurs droits civils et politiques, parce que âgés de 18 ans révolus et n'étant frappés, bien sûr, d'aucune incapacité. Donc la catégorie 2 est constituée de nouveaux majeurs, mais aussi, on va dire, d'anciens majeurs qui n'étaient pas encore jusque-là inscrits sur la liste électorale.
Arsène Conan, avec vous, nous allons demander pourquoi on fait une révision d'une liste électorale. Ça obéit à quel objectif?
Mon prédécesseur l'a si bien dit, il s'agit en fait de tenir compte de tout ce qui est à commutation. Vous voyez, il y a des personnes qui sont déjà inscrites sur une liste électorale. Bien entendu, il y a des personnes pour certaines raisons qui ne se sont pas inscrites en ce moment et qui ont aussi le droit d'y figurer. Et donc, cette opération permet donc à ces personnes-là de pouvoir donc jouir pleinement de leur droit de figurer donc sur la liste électorale, à l'effet donc de participer, on va dire, aux séances électorales à venir. Il pourra aussi se prononcer en tant que citoyen, en tout cas, sur le choix de personnalités qui doivent conduire donc les affaires publiques. Et donc, le fait, c'est véritablement contribuer à la démocratie. Donc, en soi, c'est une activité qui participe de la démocratie dans un pays parce qu'elle permet donc à tous les citoyens, en tout cas qui le souhaitent et qui en ont le droit, la possibilité de pouvoir participer donc à la vie publique.
Madame Fanta Doumbia, vous êtes donc du comité de coordination pour la participation politique des femmes. Cette opération, vous, en tant que femme, en tant que mère, quel est le regard que vous portez sur ce processus?
Alors, il faut dire que concernant la participation des femmes au ce processus, il est vraiment important, étant donné que la femme même est une citoyenne à part entière, parce que c'est pour un devoir pour elle et aussi un droit d'accomplir cette tâche-là. Et à ce titre, elle se sent concernée, et vous l'avez déjà dit, elle est aussi mère. Donc, les enfants qui n'avaient pas encore l'âge de voter, elle doit pouvoir les encourager à y prendre part. Et aussi, ces femmes-là aussi ne doivent pas être seulement que des simples participantes. Elles doivent aussi être actives. Et être active aussi, c'est être inscrite aussi à la liste électorale et pouvoir être aussi non seulement électrice, mais aussi être candidate.
Revenons à vous, Monsieur Edouard Diousou. Je rappelle donc que vous êtes le directeur des études et de l'éducation civique au sein de la CEI. Vous êtes partie prenante dans ce processus. C'est vous qui avez le lead dans ce processus de recensement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les documents administratifs qui sont demandés pour participer à cette opération?
Pour aller s'inscrire sur la liste électorale, on a deux hypothèses. Vous y arrivez pour la première fois pour vous inscrire. Vous êtes donc ivoirien sur le territoire national, dans nos 12 000 centres qui sont ouverts. Vous avez à présenter soit la carte national d'identité en cours de validité, soit le récépissé ONESI qu'on vous a remis lorsque vous êtes allé vous faire établir votre carte nationale d'identité. Et donc l'ONESI vous a remis un récépissé. Vous pouvez présenter ce document-là qu'on appelle le récépissé ONESI pour vous faire enrôler. Ou alors, vous pouvez présenter le certificat de nationalité. C'est l'une des trois pièces administratives qui sont requises. Je dis bien l'une des trois pièces administratives qui sont requises pour vous inscrire pour la première fois sur la liste électorale. Lorsque vous y êtes déjà inscrit et que vous voulez voir noter les modifications que vous voulez relever, notamment modifications au niveau de vos données personnelles, je veux dire par exemple ce qui concerne votre nom, votre prénom, etc. Selon que vous êtes une femme qui s'est mariée ou bien que vous avez changé de nom et que vous avez une justification, vous présentez alors votre carte d'électeur qui précise que vous êtes bien électeur. Et vous y ajoutez, et donc là ça fait deux pièces cumulatives, le document officiel sur lequel figurent les mentions que vous voulez voir retranscrites sur la liste électorale. Donc cette deuxième option concerne l'hypothèse de ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale. Mais enfin, toujours inscrits sur la liste électorale, donc catégorie 1, si vous souhaitez changer de lieu de vote, vous devez donc présenter votre carte d'électeur plus le certificat de résidence ou de domicile ou l'attestation de résidence fiscale qui confirme que vous êtes désormais dans la nouvelle localité où vous souhaitez aller voter. Je précise que lorsqu'il s'agit d'un changement de lieu de vote, donc une demande de changement de lieu de vote, mais dans la même circonscription, c'est-à-dire dans la même commune ou bien dans la même sous-préfecture, point n'est besoin d'exiger ou de présenter un certificat de résidence ou de domicile ou une attestation de résidence fiscale. C'est seulement lorsque vous voulez changer de lieu de vote situé d'une circonscription à une autre, c'est-à-dire d'une commune à une autre ou bien d'une sous-préfecture à une autre, que en plus de votre carte d'identité, vous ajoutez donc le dit justificatif de votre résidence ou de votre domicile.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus? C'est-à-dire que si moi, je viens devant les agents, qu'est-ce qu'on fait?
Dans le centre de recensement électoral, vous vous présentez personnellement. C'est-à-dire que tout se fait in situ. Vous, Monsieur Ben Diakité, vous arrivez, vous voulez vous inscrire pour la première fois. Vous êtes obligé de vous déplacer en personne. Avec, lorsqu'il s'agit d'une première inscription, l'une des trois pièces, la carte nationale d'identité, ou le récépissé ONESI, ou alors le certificat de nationalité. Vous vous présentez dans le centre de recensement. Vous êtes reçu par le chef de centre de recensement électoral. Il est chargé de faire un premier contrôle en éligibilité, c'est-à-dire voir si vous avez la pièce requise, la pièce administrative, et vérifier que vous êtes bien né avant le 1er mars 2007. C'est-à-dire que vous êtes éligible. Normalement, nous sommes en 2024. Vous devriez être né en 2006 pour dire que vous avez 18 ans. Mais la particularité de ce mode opératoire, de cette révision de la liste électorale en 2024 et 2025, dans l'esprit de ratisser l'âge, il a été admis de pouvoir enrôler à juste titre tous les requérants qui sont nés non pas seulement jusqu'en 2006, mais jusqu'à fin février 2007, c'est-à-dire jusqu'avant le 1er mars 2007. Étant entendu que dans le chronogramme des activités de la CEI, début mars est la date fixée pour l'affichage de la liste provisoire. Donc vous voyez bien que le point de repère, c'est l'affichage de la liste électorale provisoire. Jusqu'à la veille de cette date-là, tous ceux qui auront atteint l'âge de la majorité, donc des 18 ans, sont invités invité à s'inscrire sur la liste électorale. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut être né avant le 1er mars 2007.
Monsieur Adama Traoré, vous êtes de la plateforme du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés pour pouvoir participer à l'opération?
Effectivement, depuis 2018, personnellement donc engagé dans le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, nous nous intéressons au processus électoral, notamment l'inscription des jeunes sur la liste électorale. Et ce travail nous a conduit, en plus de toutes les campagnes de sensibilisation, mais aussi à s'interroger sur les raisons, les défis, les obstacles que les jeunes rencontreraient donc dans leur volonté de s'inscrire sur la liste électorale, et que nous a conduit justement à mener une étude intitulée en 2018 « Les raisons du faible taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale ». D'ailleurs, que le rapport a été partagé avec la Commission électorale indépendante. Et nous avions relevé un certain nombre de difficultés, d'obstacles, et qu'il était bon, de notre point de vue, que ces obstacles-là soient levés pour favoriser, faciliter l'inscription des jeunes sur la liste électorale. En premier lieu, c'est tout ce qui a trait. Et je le disais un peu ce matin à un ami, les enjeux électoraux sont transversaux. Donc, ça va de la commission électorale indépendante, ça concerne tous les acteurs qui ne sont pas forcément la commission électorale indépendante. Donc, déjà, de l'environnement politique en Côte d'Ivoire, surtout électoral, beaucoup marqué par des tensions, par des violences. La dernière en date, donc, c'est 2020, qui a fait 84 morts, plus de 400 blessés. L'apothéose était en 2010-2011 qui avait plus de 3000 morts. Donc, ces séquelles-là sont encore là, en fait. Et donc, les jeunes qui sont généralement les plus grosses victimes de ces violences-là sont souvent enclins à se départir un peu de tout ce qui est processus électoral parce qu'ils ont cette perception que ça va finir toujours dans les palabres, dans les conflits, dans les violences. Cet environnement politique aussi, il est miné justement par tous les défis liés au dialogue même entre les différents acteurs. Je le dis souvent, il faut aller peut-être au-delà des questions électorales et puis traiter, avoir une démocratie qui repose finalement sur le dialogue. Il y a beaucoup de griefs qui sont soulevés de part et d'autre. Souvent, la commission électorale indépendante donc répond en s'adossant au texte, à la loi, ce qui est normal. Elle peut pas exercer au-delà du cadre légal qui lui-même la crée. Mais après aussi, il faut regarder au-delà donc de la loi, au-delà du caractère légal, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dialogue, en termes de discussion pour écouter les uns les autres, voir leurs préoccupations et puis voir comment est-ce que on prend en compte tout ça. C'est pas propre à la CEI, c'est propre aussi à tous les acteurs. Donc, il y a l'environnement politique crispé, tout ça. Il y a aussi les questions d'accès aux documents administratifs. Et sur ce point, la CEI a beaucoup progressé, il faut le reconnaître. En son temps, c'était l'une de nos revendications phares, surtout sur la question du certificat de nationalité. En 2020, nous avions posé cela comme une préoccupation. On avait estimé que c'était aussi intéressant à l'époque que le certificat de nationalité soit un des documents requis pour s'inscrire sur la liste électorale. Et la question également du récépissé de la demande de la carte d'identité, nous l'avions soulevé aussi en 2020 et on se réjouit justement de savoir que ces préoccupations ont été prises en compte à l'époque et sont toujours d'actualité aujourd'hui. La CEI aussi a fait des efforts en termes de nombre de bureaux de vote ou de bureaux de recensement. On était autour de 10 000 en 2010. Aujourd'hui, on a plus de 12 000, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on avait constaté également, surtout du regard de la perception des jeunes, que les centres d'enrôlement étaient plus ou moins éloignés des populations et qu'il fallait faire l'effort de rapprocher ces centres-là des populations. Donc, on se réjouit également de savoir que ces préoccupations étaient prises en compte et sont toujours dans la dynamique d'être renforcées, d'être améliorées. Et il faut féliciter la CEI pour ça. Il y avait également la question même de l'information et de la communication. C'est quelque chose de très important parce que pour des jeunes que nous sommes, on a nos canaux de préférence, on a nos messages aussi de préférence. Très souvent, ce qu'on constate, surtout dans les messages, on dit aux jeunes d'aller s'inscrire, c'est un droit, c'est un devoir. Les jeunes sont conscients que c'est un droit. Les jeunes savent que le vote est un droit et qu'aller le faire même, c'est à la limite un devoir civique. Ils le savent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qu'il faut prendre en compte dans le message, notamment cette méfiance vis-à-vis des acteurs politiques, des promesses non tenues. Donc il y a beaucoup d'autres choses à faire. Peut-être qu'il ne veut pas forcément de la CEU, mais il faut aller au-delà du simple fait de dire aux jeunes, parce que c'est un droit, il faut s'inscrire, ce n'est pas suffisant.
Merci beaucoup, monsieur Adama Traoré du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Nous allons poursuivre cette émission. On va revenir donc à vous, monsieur Edouard Djoussou. C'est vrai que vous avez dit qu'il y a trois documents qui sont demandés, la pièce d'identité, le certificat de nationalité et le troisième document, le récépissé de la pièce d'identité. Il y avait du bruit sur la question de l'extrait d'acte de naissance. La question de l'extrait d'acte de naissance, ça intervient pas ou ça intervient?
Non. Il faut recentrer les choses. Le mode opératoire, la date du 3 octobre, a été très clair. Lors de nos différentes rencontres, le président de la CEI avec les responsables des partis politiques et avec les responsables des organisations de la société civile, mais aussi avec les responsables des organes de presse. La toute première rencontre, d'ailleurs, il a été très précis. C'est l'une ou l'autre de ces trois pièces qui est requise pour l'enrôlement, à savoir la carte nationale d'identité en cours de validité, ou le récépissé, ou le certificat de nationalité. La confusion dans l'esprit de certaines personnes a pu venir certainement de la publication, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, d'une partie du propos du président de la commission électorale qui a été sorti de son contexte. Il était en train d'expliquer comment les choses se font dans un centre d'enrôlement. Tel le cas d'une personne qui était venue d'elle-même avec sa carte nationale d'identité et son extrait de naissance. Et il avait été demandé au président, mais pourquoi elle vient avec? La question, c'est qu'elle est venue elle-même avec sa carte nationale d'identité. Elle y a ajouté librement son extrait de naissance. Et donc, puisqu'elle y a ajouté librement son extrait de naissance et qu'elle veut voir retranscrit donc les mentions entières qui sont sur son extrait de naissance, à savoir la filiation, l'agent formulaire, lui, il ne remplit pas sur la base de votre simple déclaration verbale, mais il retranscrit les informations qui sont sur la pièce administrative officielle que vous lui présentez. Et donc, si vous voulez qu'il note le nom de votre père, le nom de votre mère, il va vous demander, puisque vous l'avez, donnez-moi ce document. Vous ne direz pas que mon père s'appelle Diakité, donc je remplis. Non. Si vous avez le document que vous voulez qu'on retranscrive les mentions, vous le présentez. Mais il a bien précisé encore le lendemain, pour ceux qui se méprenaient, qu'il s'agit de seulement la carte nationale d'identité ou du récépissé ou du certificat de nationalité.
Voilà qui est bien clair. Merci beaucoup, monsieur Edouard Djoussou. Nous allons revenir à vous, monsieur Blimarus de la FIDOP. Vous allez suivre aussi, tout comme vos autres collègues, cette opération. Qu'est-ce que le terrain vous a révélé concernant la révision de la liste électorale en termes de mobilisation des Ivoiriens?
Depuis 2010, nous sommes sur le terrain. Mm-hmm. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'avancées au niveau de la CEI. Que nous voulons saluer, parce que le plus souvent, les gens sont prêts à accabler. Mais pour cette fois, il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées. En termes de communication, l'information passe. Même si on va revenir dessus tout à l'heure, également, certains documents qui avaient été demandés ont été pris en compte. Cela a été dit. Mais quand on revient sur la campagne 2024, la dernière sortie, comme le directeur l'explique bien, du président de la CEI, montre un élément important pour nous, mais qui ne relève pas seulement de la CEI, qui relève du dysfonctionnement de l'administration ivoirienne. Vous voyez, depuis le 13 juillet 2022, l'ONECI a mis sous pied ce qu'on va appeler les TVI, Terminal de Vérification d'Identité. Parce que la pièce identité ivoirienne est munie d'une puce. Et cette puce-là, pour avoir un certain nombre d'informations, doit être apposée sur ce qu'on va appeler le Terminal de Vérification d'Identité. Ce n'est pas utilisé. C'est parce que ce n'est pas utilisé. Ça a été fait à coup de milliards. J'ai pas les chiffres, mais je suis convaincu que parce que ces terminaux-là, vraiment, pour les produits, comme nous ne sommes pas producteurs, je suis sûr que ça a été importé. Mais c'est sous-utilisé. Comme ce n'est pas utilisé, on peut se retrouver dans cette scène à Djiglo. Ce qui s'est passé, c'était à Djiglo, je crois. Si la CEI avait saisi l'ONECI avant, ou bien sûr le gouvernement ivoirien avait profité de cette occasion pour faire en sorte que, depuis 2022, l'ONECI, avec tout ce qu'ils ont mis en place, ces différents terminaux, soit inondés de l'administration ivoirienne ou de différentes mairies. Bon, peut-être qu'on ne serait pas à cette vidéo qui a fait jaser tout le monde. Mais ce que nous on dit, c'est que non seulement les populations sont invitées à avoir l'un des trois documents demandés par la CEI,
que vous rappelez.
Le syndicat municipalité, la CNI ou le récépissé. On est content aujourd'hui d'entendre récépissé parce qu'en son temps, récépissé, non, quelqu'un va lui faire photocopie, etc. Aujourd'hui, on n'est plus à cette étape. Vous le faites, la CEI a un mécanisme, l'administration a un mécanisme pour vérifier si vous êtes effectivement la personne qui a été déclarée ou pas. Et comme il a dit, ça ne souffre pas d'ambiguïté parce qu'on est sûr que même si vous êtes jumeaux, la personne sera identifiée. Pour le moment, ce que nous constatons, pour répondre encore à la question qui a été posée, c'est que la mobilisation est encore timide. C'est encore timide. À part Diglo, où on a eu, parce que là, le président était là pour une cérémonie, donc comme c'est l'ouverture, il y a eu quelques mobilisations. Par ça, à Abidjan, c'est encore timide.
Pourquoi c'est timide et comment on peut donner de l'entrain?
D'abord, il y a l'habitude des Ivoiriens. Ils aiment les derniers délais. Et les Ivoiriens sont habitués à une prorogation des délais. On estime que la CEI, au soir du 10 novembre, a dit, bon, c'est prolongé de 2 semaines encore. Les Ivoiriens ont cette habitude, il y a ça. Deuxième élément, on est convaincu que les structures pour l'établissement de certains documents administratifs sont pris d'assaut. Donc, on pense que les gens sont en train de fournir leurs documents et autres. Troisième élément, la question de la révision de la liste électorale a toujours été politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Alors que ça fait partie des documents qu'un individu qui revendique tous ses droits doit avoir. Donc, les hommes politiques sont en campagne. On a vu un leader de cette partie politique se retrouver à main, en train de mobiliser. Donc, peut-être que quand ils vont finir la campagne cette semaine, ça vient de commencer. On attend le week-end prochain. Peut-être que les gens vont être pris d'assaut. Mais aussi, il faut dire que ces jeunes majeurs sont encore sur les bancs. Et nous sommes en période de rentrée scolaire. Ça peut expliquer que ce soit seulement durant le week-end, samedi, dimanche, que les lieux de révision de la liste électorale soient pris d'assaut. Dernier élément, on est dans la petite saison des pluies pour l'intérieur. Et c'est pourquoi nous, on va bientôt produire un communiqué pour plaider pour que la CEI prolonge encore les délais. Parce qu'à l'intérieur, il y a des zones où il pleut. Et quand il pleut, la circulation pour certaines zones est encore difficile. Et donc, des gens n'arrivent pas à rallier certains lieux d'enrôlement. Pas tous, mais certains lieux d'enrôlement. Voilà ce que nous voulons dire.
Monsieur Edouard Diossou, tout à l'heure, Monsieur Blumarius de la FIDOP a relevé quelques défis qui s'adressent à l'opération, notamment, on va dire, la lenteur constatée. Je rappelle que mardi 22 octobre 2024, le président de la CEI, lors de la rencontre avec les journalistes au plateau à l'UNJCI, déclarait qu'il y avait 5000 bureaux de vote qui n'avaient pas enregistré, au moins 5000 bureaux de vote qui n'avaient pas enregistré de requérants. Vous qui êtes technicien, comment vous pouvez justifier ça? Sur les 12 000 bureaux ouverts, il y avait 5 000 qui n'avaient pas, lorsqu'ils communiquaient, en tout cas, enregistré de requérants. Comment on peut expliquer cela?
Je ne voudrais même pas justifier cela, parce que ce n'est pas à justifier. Il faut plutôt relever que M. le président de la commission électorale, lorsqu'il donnait cette information, il en était à la limite pas du tout heureux. Parce que tous les efforts qui sont consentis par les agents, par la commission électorale, avec les moyens qui sont rendus disponibles par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est pour que nous puissions avoir, et j'espère que c'est le souhait de tout le monde, le maximum de personnes inscrites sur la liste électorale. Et M. le Président l'a clairement indiqué, et il ne cesse de le relever. Notre vœu le plus cher, et nous travaillons pour cela, c'est de pouvoir enrôler les 4 500 000 Ivoiriens que nous attendons, qui restent à inscrire pour que nous ayons une liste électorale parfaitement densifiée. Donc, c'est dommage que nous ayons autant de lieux de vote qui attendent de recevoir les Ivoiriens. Et il faut que chacun de nous, que chacune des parties prenantes aux sociétés civiles comme organisation politique, avec nous-mêmes, nous soyons individuellement acteurs de changement. Acteurs de changement positif. Il faut que nous encouragions nos concitoyens, nos parents, nos frères et sœurs à aller se faire enrôler dès les premiers jours, ne pas attendre le dernier jour. Il faut quand même prendre nos dispositions dès maintenant. On n'a pas annoncé l'enrôlement hier. Donc voilà.
Monsieur Arsène Connor, c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a eu quand même une campagne nationale de la CEI, les partis politiques, la société civile. On a expliqué les enjeux, on connaît tout ça. Mais la réalité est que les gens traînent. Les chiffres enregistrés ne donnent pas satisfaction pour le moment.
Oui, je vais en tout cas m'évertuer à être bienveillant. Et je vais dire que, à la limite, c'est un peu utopique de vouloir avoir des résultats différents quand on fait chaque fois les mêmes choses. Pour moi, il y a différents facteurs. Adama de Rijli a déjà cité certains facteurs qui concourent donc à ce qu'on voit. Et pour nous, observateurs avertis, on n'est pas surpris. Bien évidemment, on en rit pratiquement parce que quand on fait toujours les mêmes choses, ça produit les mêmes effets parce que il y a un contexte global dans lequel cette opération baigne. À la suite d'Adama, je vais citer quelques éléments. On est tous autour de la table convaincus de ce qu'il y a, ce désenchantement entre les populations et tout ce qui est politique, notamment la classe politique, les établissements politiques qui n'arrivent pas véritablement à proposer des solutions nouvelles aux populations. Donc, à la limite, les gens se disent c'est toujours les mêmes, on va aller voter, ça ne va pas aller quelque part pour parler comme les Ivoiriens. Un autre élément, il y a cette forte controverse qui persiste autour même de la commission électorale. À tort ou à raison, chacun en est dans le tiraillement perpétuel autour de cette commission, alors que les principaux protagonistes sont même acteurs de la commission électorale. Et donc, l'Ivoirien lambda, il n'y comprend rien. À la limite, cela dessert la cause de la commission électorale et chacun est persuadé que, bon, cette commission même qui est décriée par ceux même qui la font, qu'est-ce qu'elle peut bien organiser de potable ? Voilà. Et puis, il y a un autre élément, et pour moi qui est l'élément fondamental, c'est le fait de vouloir raccourcir, on a essayé chaque fois de faire la révision de la liste électorale en quelques jours, voire deux semaines maximum, et on a toujours visé haut. Là, cette année, on vise 4,5 millions de nouveaux électeurs, mais là, deux jours, trois jours après, on a un peu plus de 5 000 bureaux d'enrôlement qui n'ont reçu aucun requérant. Mais c'est clair que on va pas atteindre, si on a atteint les 500 000 qui sont là-dessus, ça veut dire qu'on est chanceux. Il faut repenser les choses. Et pour moi, repenser les choses, il y a deux postures. Après, le débat, il peut être lancé. Depuis quelques années, on a l'ONESI qui essaie de faire un travail d'état civil assez important. Je pense que globalement, nonobstant quelques griefs ou quelques critiques, c'est normal, toute activité humaine est assujettie à des critiques. On est plus ou moins d'accord sur ce qui se passe et on pense que ça peut nous apporter quelque chose. Il faut simplement reconsidérer la liste électorale à partir donc des Ivoiriens qui sont inscrits à l'état civil pour acquérir les pièces d'identité. Parce qu'il y a ce débat aussi au niveau donc de la liste électorale qui, pour certaines personnes, serait une liste électorale d'erreur ou même qui comporte
des personnes qui n'ont pas droit à y être.
Qui n'ont pas droit. Mais on est tous d'accord aujourd'hui que ceux qui ont la pièce d'identité ivoirienne, en tout cas, pression ivoirienne, pourquoi ne pas faire table rase de ça et reverser complètement tous ceux qui ont les pièces d'identité aujourd'hui dans cette liste? Parce que la liste, on la revise. Mais en réalité, s'il y a des erreurs depuis le passé, en fait, ce sont ces mêmes erreurs qu'on puisque les gens qui sont sur la liste électorale, bien souvent, ne vont pas actualiser. C'est vraiment quand on change de bureau de vote ou de lieu de vote qu'on se précipite pour pouvoir actualiser ces choses. Donc, s'il y a des erreurs originelles, ce sont ces erreurs originelles que nous transportons de révision en révision. Donc, on peut purement et simplement faire table rase de cette liste-là et reconsidérer tous ceux qui sont enrôlés au niveau de l'ONESI, parce qu'en réalité, beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas, essaient donc de se mettre à jour. Et l'ONESI a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir diversifier les centres d'enrôlement, pour pouvoir avoir la carte nationale d'identité. Ça, c'est un choix qui est là. Et c'est encore plus facile à faire. Les uns ou les autres, on peut leur donner une période assez large pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. L'autre chose, c'est vraiment toujours de faire table rase, mais d'étendre la révision de la liste électorale sur une longue période. Et à la limite, ne pas fermer, sauf à l'approche des élections, parce qu'il faut pouvoir présenter donc les listes provisoires et tout ça, passer la période du contentieux, et avant de pouvoir donc passer aux élections. Alors, là-dessus, on donne le temps vraiment à tout le monde de pouvoir y aller. Parce que, oui, on voit venir faire la queue dans un centre d'enrôlement, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Adama l'a dit, mais il y a l'état civil aussi, il faut pouvoir faire des documents et tout ça. Il faut pouvoir avoir le temps, comme il a dit, nous sommes en pleine année scolaire. Quand il pleut souvent à l'intérieur ou dans les zones rurales, on va au champ. Voilà, il faut pouvoir regarder tout ça. Donc, quand on parle de rendre pérenne donc la révision de la liste électorale ou l'inscription sur la liste électorale. On nous parle de coûts. Vous voyez, on sort d'une Coupe d'Afrique très réussie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on est tous fiers de nos infrastructures. Mais ça a coûté ce que ça a coûté pour que la Côte d'Ivoire ait tous ses lauriers. Aujourd'hui, on a parmi les meilleures infrastructures sportives, en tout cas au niveau du football, en Afrique. Mais ça a coûté ce que ça a coûté. Mais pour qu'on puisse pérenniser nous même ces infrastructures qu'on a payées à prix d'or, il faut qu'il y ait la quiétude sociale en Côte d'Ivoire. Et on sait tous que les élections participent de la quiétude. Voilà. Donc, si les élections de 2025, je ne le souhaite pas, ne se passent pas bien parce qu'on ne s'est pas entendu pour faire révision de la liste électorale et d'autres choses. Mais vous voyez que, voilà. Donc, mettons les moyens là où il faut pour que, pour une fois, on sorte de ces opérations-là, tous satisfaits.
Voilà. Alors, monsieur Edouard Dusson, on va vous permettre de répondre à ces préoccupations, ce sont ces deux préoccupations. Est-ce qu'il n'est pas possible de reverser systématiquement, à partir des bases de données de l'ONICIS, sur la liste électorale? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir sur toute l'année la révision de la liste électorale?
Je voudrais rappeler ici que je crois que c'est le président de la commission électorale indépendante, M. Koulibaly Kubiek, qui a été le premier à faire cette proposition. Il vous souvient que plusieurs fois, M. le président a proposé cette démarche. Mais vous vous rappellerez aussi l'accueil qui a été fait à cette démarche, qui était empreinte d'une très bonne volonté, je pense, d'un désir de faire bien, de faire mieux que ce qui se passait jusqu'alors. M. Kona vient de le révéler. Mais la particularité de la chose électorale, c'est qu'elle met en mouvement plusieurs acteurs aux intérêts quelquefois opposés. Et nous, notre rôle d'arbitre, nous l'assumons pleinement et nous acceptons et nous comprenons que des personnes qui devraient plutôt se réjouir de la pertinence d'une telle proposition qui est venue de notre part en premier, finalement la combattent, alors que cela participe de leurs intérêts. Parce qu'en réalité, quand vous prenez une personne sur la liste électorale, mais rien ne vous garantit qu'elle votera pour X ou bien pour Y. Même votre propre frère, vous n'avez aucune garantie. Même votre propre enfant. Donc, pour nous, avoir une liste électorale qui est vraiment dense, qui est la plus inclusive possible, mais c'est du pain béni pour la commission électorale indépendante. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce à quoi cette commission travaille. Mais la question pour nous n'est pas est-ce que c'est possible? Parce que nous, nous souhaitons cela. Et la plus haute autorité de la commission électorale l'a clairement signifié plusieurs fois. La question c'est, est-ce que les parties prenantes ont suffisamment confiance? Acceptent de prendre leurs responsabilités jusqu'au bout?
Deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut ouvrir techniquement l'inscription sur la liste électorale à toutes les périodes de l'année?
Tout ce qui est technique en matière électorale est encadré par le cadre légal. Maintenant, à la pratique, une révision de la liste électorale, ça ne se boucle pas en 2 mois ou en 3 mois. Quand vous avez fini de prendre, de capter toutes les données selon la période que vous aurez proposée, qui sera validée, vous avez tout un travail, pour ce qui nous concerne au site central, de vérification des choses, de dédoublonnage, de tout ce qui permet de nous assurer que les données sont conformes, qu'elles sont fiables. Et lorsqu'on fait le dédoublonnage, c'est pas le dédoublonnage qui concerne uniquement les nouveaux majeurs qui se sont inscrits, mais c'est de s'assurer que tous, c'est-à-dire vous prenez, quand vous avez par exemple 8 012 245, quand il y a un 246e qui vient s'ajouter dans les 8 012 000, il faut le croiser avec tous les 8 012 245 premiers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, la technologie étant ce qu'elle est, mais ça ne va pas prendre une seconde. Vous comprenez tout ce que ça implique. Et ensuite, il y a l'affichage. Il faut donner du temps pour l'affichage. Il faut donner aussi du temps pour le contentieux. Pour que l'Ivoirien qui n'est pas satisfait puisse, dans un recours administratif préalable, saisir la CEI. Et lorsque son mécontentement persiste, il faut que le droit lui soit reconnu de saisir le tribunal. Que le tribunal aussi prenne du temps pour statuer. De sorte à permettre que la décision prise par le tribunal en premier et dernier ressort puisse s'appliquer aux différentes parties, y compris la CEI. Avant qu'on arrête la liste électorale définitive. Et que celle-ci, arrêtée, validée, puisse encore faire l'objet d'une impression sous la forme des cartes d'électeurs, sous la forme de listes de margement, et que cela soit déployé dans tous les centres qui deviennent alors des lieux de vote. Donc ça prend du temps.
Blimarus, allez-y pour votre question.
Non, vous savez, on prie pour ce pays, pour que les choses avancent. On encourage, on accompagne la commission électorale, parce qu'on l'a souhaité avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. La commission électorale, on l'a souhaité. Et on ne peut pas être la souhaiter si on ne peut pas être défenseur des droits de l'homme et puis refuser une commission commission électorale. On l'a souhaité. Mais on dit, monsieur le directeur, il fait son rôle de directeur. On est d'accord. Mais derrière, tout ce qu'il a dit, dans le communiqué que la CEI produit, ils nous disent qu'en 2025, ils peuvent faire ça avant les élections. Donc, ils peuvent faire ça en moins d'un an. C'est ce qu'ils nous disent. S'ils peuvent faire ça en moins d'un an, on aurait pu avoir la révision en 2022, 2023, 2024. Et ça n'a pas posé de problème. On le comprend. C'est pourquoi je commençais par dire que le problème que connaît la Côte d'Ivoire, c'est pas un problème de CEI. C'est un problème d'organisation administrative. Il faut que nos dirigeants, nos autorités sachent que ces différentes structures, ces différentes institutions doivent être interconnectées les unes aux autres. Parce que si l'ONESI avait fourni les documents, on aurait avancé au moins d'une année. Ça, c'est le premier élément. Si tous ces ingénieurs qu'on a dans les technologies et autres avaient été sollicités pour nous trouver des formules rapides pour faire une révision de la liste électorale, et surtout, si nos différentes mairies avaient été équipées du matériel électronique et informatique pour remonter ce nombre d'informations, on aurait avancé encore d'une année. Tous ces débats, toutes ces substitutions, c'est parce que les mêmes politiques là sont maires. Ils savent qu'il y a des différences depuis la base. Ils savent que ces différences peuvent remonter au niveau de la CEI. Et encore, ils savent que tout ça, ça va nous créer des débats et des problèmes post-électoraux. C'est pourquoi nous, on dit, il faut que ces problèmes administratifs soient réglés une fois pour toutes. Ça doit être réglé. Mais quand le président de la CEI, il prend la parole à Djiglo, ça nous montre qu'il y a véritablement problème au niveau de l'administration, surtout que nos autorités doivent se saisir de ce petit truc pour essayer de régler définitivement. Parce que vous savez, à chaque fois qu'un Ivoirien tombe, il meurt pour des questions électorales, les élections ne valent plus la peine en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne vont pas continuer à aller prendre des cartes alors que vous serez candidat demain et puis perdre la vie. C'est pourquoi aussi que les gens ne sont pas intéressés.
Merci beaucoup, monsieur Blimarisso. Avec vous, Adama Rijli, vous aviez souhaité réagir.
Oui, je pense que mon professeur l'a un peu dit. Ah, écoutez, monsieur Djoussou, on a l'impression qu'on peut justifier cette question-là par le fait qu'on n'a pas, trop le temps ou bien ça prend du temps. La CEI, et quand on aborde les choses, aime se référer à la loi. Mais quand il s'agit également d'autres éléments, la loi même contraint la CEI à le faire, mais la CEI ne le fait pas. Et que si on révisait la liste chaque année, peut-être que ce problème n'allait pas se poser. Alors que la loi demande justement à la CEI de le faire chaque année. On ne sait pas pourquoi la CEI ne le fait pas. Donc, s'il y avait une révision en 2021, en 2022, il n'y a pas eu élection. Si on s'y était pris tôt, même en 2024, on aurait eu toute une année justement pour absorber ce temps-là. Et puis, moi, j'ai participé justement à une partie d'expérience avec les organisations de la société civile du Mali, il y a quelques années. Il se trouve qu'au Mali, ils arrivent justement à ouvrir le processus sur un bon nombre de mois pour permettre aux gens justement de le faire. Et ça ne pose pas de problème. Je pense qu'ici aussi, on peut le faire si le Mali arrive à le faire. Autre chose que je voulais faire remarquer, tout à l'heure, on parlait d'engouement. Ce matin même, j'étais en discussion avec des amis et je leur disais que c'est une constante. C'est une constante voilà, dans tous les processus de révision. C'est qu'au début, les gens ne s'y pressent pas. Mais cette année, c'est quand même un peu affiché quand même. Même au niveau des organisations de la société civile, on ne sent pas d'engouement. On ne sent pas d'engouement. C'est comme si l'environnement était un peu crispé. Crispé de sorte que finalement, on a l'impression que tout le monde est fatigué en fait de cette histoire-là. Chaque année, on fait. Et tout à l'heure, il parlait de ce que le président de la CEI a été le premier justement à parler du basculement. Et aussi, que nous avons fait partie des premières personnes à poser la question sur la table. L'un des véritables défis, c'est que les gens n'ont plus confiance au processus électoral. Ça se termine toujours dans palabre. Les problèmes demeurent. Les gens ne sont pas satisfaits. C'est les mêmes histoires. Donc, les gens n'ont plus confiance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quel est le taux de jeunes inscrits sur la liste électorale? Pourquoi la CEI ne fait pas de désagrégation des données par âge ou par sexe, par exemple? Ou si elle le fait, pourquoi ce n'est pas mis à disposition de tout le monde?
Monsieur Edouard Diouzou va répondre à ces deux préoccupations. Monsieur Edouard Diouzou.
J'aurais su que vous étiez intéressé par ces éléments, que j'aurais préparé les réponses.
Okay.
Mais écoutez, la CEI n'a pas la prétention d'être une organisation parfaite. Mais il faut reconnaître le travail qui est fait, la qualité du travail qui est fait par la Commission électorale indépendante. Les Ivoiriens, on a trop l'habitude de se flageller. Parce que peut-être qu'on est mû par un désir d'excellence. Mais je peux vous dire, pas parce que je travaille à la Commission électorale indépendante, mais beaucoup de nos pays frères viennent s'inspirer du travail qui est fait à la Commission électorale indépendante. Sur Monsieur, la question, aucune de vos demandes à ma connaissance pour avoir ces informations au niveau de la CEI n'a été frappée d'une réponse négative. Pour preuve, nous vous remettons aux partis politiques principalement parce que c'est constitutionnellement eux qui participent à l'expression du suffrage et à tous ceux qui le demandent la liste électorale, provisoire ou définitive selon le moment où nous nous situons. Mais il est loisible à chacun de pouvoir interroger et puis sortir les taux. J'aurais reçu l'information qu'il fallait que je vous la communique, que je vous l'aurais sortie. Mais les documents existent qui donnent le taux des jeunes. Les jeunes, la tranche des jeunes, la tranche qui définit les jeunes, c'est de 18 à 35 ans. On peut vous la sortir, c'est assez facile. Pour les femmes, évidemment que c'est disponible.
Il formule une demande pour l'obtenir.
Mais comme dans toute organisation, simplement. Toute organisation administrative, mais nous avons des documents qui le montrent déjà. C'est des choses qui existent. Ne croyez pas qu'on a attendu une occasion particulière ou bien un débat ou bien une demande pour pouvoir fournir. Ces formations existent bel et bien. Seulement, c'est que pour cette émission, nous n'avions pas eu reçu la précision de mettre ces informations à disposition, sinon je vous l'aurais préparé et donné. Autre chose sur
la question.
Pourquoi
on ne fait pas la révision chaque année?
Non, il a bien dit que la loi prescrit cela. Mais moi, je voudrais encourager chacun à aller lire complètement la loi. Lisons complètement le code électoral, lisons la loi qui définit les attributions de la commission électorale et vous verrez le rôle de chacun. Nous avons nos 24 attributions, mais nous ne pouvons pas nous saisir nous-mêmes pour convoquer le collège électoral, messieurs et mesdames. Vous le savez très bien. Et quand je dis cela, vous avez compris en intellectuel ce que ça signifie. Mais pour ce qui nous concerne, nous faisons in extenso ce que nous avons à faire selon les missions que nous assigne la loi. Et j'aimerais que les parties prenantes le reconnaissent, au moins à cette commission électorale. Mais ceux qui critiquent cette commission électorale, regardez les plus acerbes. Mais vous verrez bien que cette liste électorale qui critique, là, c'est celle-là qui leur a permis d'être à la place d'élus qu'ils ont. Regardez les mairies de cette commission électorale, dont les principaux animateurs, que sont les commissaires centraux, ont comme souci de respecter leur serment. On a vu des têtes et non des moindres tomber de façon démocratique face à des adversaires qui n'étaient pas forcément de partis politiques, donc des indépendants. Pardon, donc au moins reconnaître que lorsque vous avez gagné, eh bien c'est vous qui avez gagné. Et alors, la commission n'a jamais été intéressée à intervertir les résultats.
Monsieur Edouard Djoussou, j'avais une préoccupation. C'était la question des personnes décédées sur la liste électorale. Quel traitement vous faites? Comment on arrive à enlever de la liste électorale quelqu'un qui ne vit plus, quelqu'un qui n'existe plus, dont on a connaissance? Quelle est la démarche?
La Cour électorale dit qu'il faut organiser cette RLE pour tenir compte des mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. Donc, ça consiste à permettre à ceux qui ont l'âge et qui respectent toutes les autres conditions de venir s'inscrire. Ça consiste, comme je l'ai dit, de permettre les modifications des données, les changements de lieu de vote. Mais ça consiste aussi à extirper de la liste électorale ceux qui n'ont plus le droit d'y être parce que frappés par une décision de justice qui les prive de leurs droits civils et politiques, ou bien celles des personnes qui ont cessé d'être des personnes de droit, c'est-à-dire qui, malheureusement, selon les lois de la nature, ne sont plus. Mais, monsieur Diakité, quand vous naissez, c'est pas vous-même qui vous déclarez. Ce sont vos parents qui vous déclarent. De la même manière, je touche du doigt, mais quand Tantan Pion ou bien X, Y décède, il ne s'extirpe pas, il se fait pas lui-même un document. Ce sont ses proches qui vont ensuite le déclarer. Vous êtes sur la liste électorale. Si malheureusement vous êtes décédé, le mode opératoire de cette RLE 2024-2025 stipule que tout électeur peut demander la radiation pour cause de décès d'un électeur ou bien d'une électrice. Donc ça signifie qu'il faut que vous-même qui faites la requête, vous soyez électeur ou électrice, que vous en apportez la preuve, donc que vous donnez vos cartes d'électeur, et qu'ensuite vous présentiez les pièces requises qui sont la carte d'électeur ou le numéro de lecteur de la personne prétendue décédée, plus l'acte de décès ou le certificat de décès ou le certificat de genre de mort. Vous pouvez le faire dans n'importe quel centre d'enrôlement. L'innovation, c'est que ça ne se passe plus pendant le contentieux, mais ça se passe déjà pendant la période d'enrôlement. Ceci pour permettre à toutes ces personnes qui veulent faire cette requête d'avoir plus de temps. Mais c'est pas quand vous formulez cette requête-là, au moment que immédiatement la personne visée est retirée. Vous remplissez un formulaire, vous adjoignez les pièces requises et ensuite le traitement va être fait. Les vérifications vont être faites. Après quoi, à l'affichage de la liste provisoire, qui va bien sûr précéder quelques jours avant le contentieux, tous les recours pourront être faits.
Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir cette opération, Monsieur Blimarus, oui.
Nous voulons déjà féliciter la CEI. Effectivement, la CEI fait beaucoup d'efforts. Et parmi ces efforts, il faut des efforts de communication. Comme c'est une CEI d'intellectuels, c'est suivi très bien. Et on est content même déjà. Il y a des institutions, quand on convoque leurs responsables, ils ne viennent pas aux émissions. Ils ne viennent pas au débat. Ils ne viennent pas pour expliquer. On félicite la CEI, mais qui permet au directeur de venir lui-même expliquer et s'exercer face au débat avec les organisations de la société civile, avec tout le monde. Et ça, c'est déjà un élément à noter. Mais vous voyez que la CEI est éprouvée. Tant que notre administration ne fonctionne pas bien, on va leur donner à se promener comme ça pour expliquer les choses comme ça. Quelqu'un qui est décédé, moi je viens pour dire qu'il est décédé, on dit qu'il faut qu'il soit électeur. Il est décédé ou pas? Que je ne suis pas électeur, là, est-ce qu'il est vivant? Donc, ça veut dire que si notre administration fonctionne normalement, si les éléments sont informatisés dans les différentes mairies, si l'État civil remonte l'information tout simplement à la CEI, et puis la CEI saisit l'ONECI, vous voyez que quand il s'est connecté de cette façon, ils n'ont pas tous ces efforts. Et si celui-même qui doit venir déclarer que le monsieur est décédé, l'électeur, lui-même n'est pas disponible, ça veut dire qu'on aura quelqu'un qui est décédé sur la liste électorale et on aura des partis politiques encore qui vont s'élever pour dire où est-ce qu'il est décédé, comme si c'est la CEI qui prend le monsieur décédé pour le mettre forcément sur la liste électorale. C'est notre administration qui fonctionne pas bien. Qu'est-ce que nous on propose face à ça? Notre proposition est simple. Il faut que nos autorités, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, le Premier ministre, le président même de la République, parce que c'est la CEI encore qui est en train d'être prise en otage pour nous conduire à des violences post-électorales. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est pour nous envoyer dans des palabres qu'on n'a pas souhaitées. Le chef de l'État peut saisir cette situation pour mettre tout le monde à l'aise. C'est de faire en sorte que notre administration soit interconnectée. On va me dire que ça va prendre encore du temps. Oui, ça peut prendre du temps tant que on peut avoir la paix. Parce que ce que nous, on recherche, c'est de pouvoir avoir une carte d'électeur qui va nous permettre d'être en vie en 2026.
Merci beaucoup, monsieur Blumarius. Adama Traoré, quelles recommandations pouvez-vous faire pour que l'opération soit une opération réussie?
Monsieur de la CEI disait tout à l'heure qu'il faut reconnaître à la CEI des efforts. On a été les premiers à le reconnaître ici tout à l'heure. Mais quand on pense aussi que des choses ne font pas, je pense qu'il faut aussi nous reconnaître le droit de le dire. Voilà, c'est pas méconnaître les efforts de la CEI, mais c'est de dire les choses qu'on constate qui ne vont pas bien et qui peuvent servir justement pour améliorer le processus. Alors, en termes de recommandations, déjà, moi, je recommanderais à la CEI, après chaque processus, c'est de générer des données par âge, par sexe, tout ça, et puis diffuser directement sur le site de la CEI. La CEI, il y a un site. Pas besoin forcément de demander ça. Moi, je cherche ça tous les jours. Les gens m'appellent. Tu n'as pas le taux de jeunes inscrits? Je n'en ai pas. En termes de recommandations, comme je l'ai dit, l'un des problèmes majeurs, c'est la méfiance. Les gens n'ont plus confiance aux élections en Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'on a énuméré ici. Donc, c'est de recréer un consensus politique autour des questions électorales. C'est vraiment important. Si ceux qui animent le jeu politique, le jeu démocratique, s'ils nous mettent à l'abri d'un certain nombre de choses et qu'ils s'accordent sur l'essentiel, ça va donner confiance aux citoyens et qui vont prendre une part active. Au niveau de la CEI également, c'est de renforcer la communication. Et c'est aussi la même recommandation à l'endroit des organisations de la société civile. Voilà, c'est de renforcer justement cette sensibilisation, ce contact auprès des populations. Et à l'endroit des partenaires techniques et financiers, c'est de ne pas attendre justement à la veille des processus pour pouvoir donc solliciter les OSC. On peut sensibiliser, on peut éduquer tout au long de l'année sans avoir eu à attendre forcément à la veille des élections. Je pense qu'on gagnerait plus à être constant dans notre travail, dans notre dynamique, que d'attendre justement cette période-là. Souvent, ce n'est pas efficace.
Un mot à l'endroit des jeunes.
C'est un travail que nous, on a fait depuis 2018. On croit justement que le fait d'être inscrit sur la liste électorale, c'est le pouvoir justement qu'on nous donne, justement, de pouvoir changer peut-être la destinée de ce pays.
Madame Fanta Doumbia du comité de coordination pour la participation politique des femmes. Sur la même question, comment on peut mobiliser les femmes, comment on peut mobiliser les électeurs, mais surtout les femmes et les jeunes filles à s'intéresser davantage à la chose politique, à la révision de la liste?
Oui, moi je pense que beaucoup a été dit autour de cette table. Il faut dire que la démocratie, c'est pas quelque chose qui se construit en un jour. Et le processus électoral, c'est un facteur de la démocratie. Mais pour cela, moi, je pense que nous avons besoin de formation et d'éducation. De formation et d'éducation, parce que il faut dire que ça fait combien d'années que nous sommes en train de tourner dans le même système. C'est-à-dire que, à l'approche des élections, on a toujours les mêmes débats. Et ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Après 2010, nous, on s'est dit qu'il fallait une rééducation même de la population. Il fallait une culture de la démocratie pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas seulement au moment des élections qu'il faut faire les pièces d'identité, qu'il faut s'approprier tout ceci. Et la société civile doit intensifier sa sensibilisation et surtout l'information, la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont dans les marchés qui ne savent même pas qu'il y a la révision de la liste électorale. Et même si elles le savent, quand elles vont, elles n'ont pas la bonne information. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait non, qu'il faut forcément l'attestation de résidence. Je dis non, Et j'ai commencé à leur expliquer. Et surtout que souvent, on s'est dit que non, on doit payer aussi. Donc, c'est dit, mais si on va aller payer, moi, je n'irai pas, je préfère rester à la maison. Donc, il faut continuer à donner la bonne information aux gens et dire à la jeunesse que l'avenir leur appartient. Et quand on dit que l'avenir leur appartient, c'est à travers les élections aussi qu'elle doit faire sa part.
Monsieur Arsène Conan, votre mot de fin par rapport donc à notre thématique de ce jour, quels sont les défis à relever pour réussir donc la révision de la liste électorale?
Moi, je suis ce débat sur le processus de révision de la liste électorale avec un peu d'amusement quand même, pour le dire, malheureusement. À la décharge de la CEI, il faut dire que la CEI n'est que, on va dire, la face visible de l'iceberg sociopolitique, électoral et administratif de la Côte d'Ivoire. Oui, pauvre CEI, j'allais dire. Tant que on continuera de faire les choses comme on l'a toujours fait, avec cette moisson qui a toujours été maigre, ne soyons pas surpris que au soir, en tout cas de cette opération de révision de la liste électorale, on atteigne même pas le quart de ce qu'on escompte. Le résultat escompté, c'est 4 500 000 électeurs nouveaux.
Visés.
Alors, et à un moment donné, il faut arrêter de faire les mêmes choses et de se justifier de part et d'autre. La commission électorale fait ce qu'elle peut avec les moyens. Quand je parle de moyens, il y a tout le cadre qui encadre, au risque de me répéter, l'activité qu'elle porte. Mais il y a tous ces autres acteurs, donc l'administration, les acteurs étatiques, les acteurs politiques, qui font partie donc de cet écosystème-là, qui doivent, oui, tous arrêter de se justifier et être pragmatiques. On aura beau organiser des révisions de la liste électorale, les Ivoiriens ne vont pas se mobiliser comme s'ils partaient regarder la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça fait des décennies qu'on est dans la même chose, ça n'avance pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une institution en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'ONESI et qui, après avoir appris aussi des échecs passés, aussi des institutions qui l'ont précédé, est en train de déployer une façon de faire qui est plutôt satisfaisante. Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur l'ONESI, donc avec l'état civil qui est en train d'être modernisé, pour pouvoir donc reconstituer à partir de zéro la liste électorale? Si on s'appuie sur l'état civil, on a juste à faire même le contentieux, parce que en réalité, chacun ira pour vérifier s'il est effectivement là où il veut être, ou bien si en temps il a changé de lieu de résidence, pour juste actualiser. Et donc, on gagne en temps et on a massivement des personnes. Quand on parle d'estimer des personnes qui sont décédées sur la liste électorale, on dit que celui qui fait la demande doit donner ça. Mais moi, je peux avoir mon voisin qui est décédé, mais je ne suis pas son parent, donc je ne peux pas avoir accès à ces documents requis là pour pouvoir le faire. Mais je crois que si ce voisin est décédé il y a 10 ans, 20 ans de cela, il est encore dans cette liste électorale. Mais ce voisin, il ne peut pas avoir fait donc de pièce d'identité récemment, donc avec l'ONESI. Donc il y a des solutions concrètes qu'on se décide à aller de l'avant et à ne plus rester dans les justifications en un point fini qui, à la fin, dessert véritablement la démocratie en Côte d'Ivoire et la participation politique des citoyens.
Merci beaucoup, Arsène Kona. On va terminer avec vous, monsieur Edouard Djoussou. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et de l'éducation civique au sein de la commission électorale. Notre émission a pris fin. On va vous permettre de dire votre mot dernier.
Bien, moi, je voudrais, en renouvelant nos remerciements à votre radio, inviter toutes les parties prenantes. J'entends les partis politiques, les organisations de la société civile, tous les partenaires, les différents acteurs, dont l'action et les missions peuvent permettre de conduire un processus électoral inclusif, paisible, intégré, à emboîter le pas à la commission électorale indépendante. Pour créer les conditions de la confiance, pour renforcer, je devrais dire, la confiance, mais aussi inviter les Ivoiriens à la sérénité. Parce que voyez-vous, quand deux équipes de football doivent compétir pour un match important, chacune d'entre elles bat le rappel de ses supporters. Mais si vous effrayez les supporters, ils ont peur de venir sur le terrain, motif pris de ce qu'il y aura des troupes, mais comment vous voulez pouvoir compter sur ce que vous appelez vous-même le 12e homme? Or, il s'agit de cela, justement. Faire le plein du stade, c'est-à-dire densifier la liste électorale. Parce que tout parti politique aspire à accéder au pouvoir, mais pas des élections. Or, ne peuvent participer aux élections que les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale. Et c'est de cela qu'on parle maintenant. Il faut que nous fassions chorus tous ensemble pour mobiliser les Ivoiriens à l'effet de venir s'inscrire sur la liste électorale. Parce que c'est un acte hautement civique, de la plus
haute importance. Nous devons taire tous les avis divergents et faire chorus ensemble pour dire que tout Ivoirien né avant le 1er mars 2007 doit être sûr qu'il est inscrit sur la liste électorale. Ceci doit être le slogan, à notre avis, à la commission électorale, de tous ceux qui ont intérêt à ce que la démocratie soit renforcée, soit développée en Côte d'Ivoire. Invités par ce message de la commission électorale, tous et toutes à s'engager à l'inscription des Ivoiriens sur la liste électorale. Je le rappelle, c'est du 19 octobre au 10 novembre. N'attendons pas le dernier jour. Dès cet instant, allez vous inscrire sur la liste électorale. Vérifiez votre inscription sur la liste électorale en consultant le site web de la CEI, www.cei.ci, et vous pourrez vérifier votre inscription.
C'est la fin de cette émission Débat démocratie en progrès. Je rappelle que je recevais M. Edouard Djoussou, directeur des études et de l'éducation civique à la commission électorale indépendante. Je recevais Arsène Conan, spécialiste des processus électoraux, cofondateur de Côte d'Ivoire Citoyenneté Active. Je recevais également Mme Fanta Adoubia, présidente de l'ONG, le comité de coordination pour la participation politique des femmes. Également M. Bli Marius, secrétaire général de la FIDOP. Monsieur Adama Traoré du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup et à très très bientôt.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.